La main verte d'Alain Baraton. Bonjour mon cher Alain.
Bonjour mon cher Eric, bonjour à tous.
Évidemment, pour vous, l'amoureux des arbres, un arbre ce matin, c'est le sapin, ce symbole des fêtes de fin d'année.
Et oui, un sapin qui est devenu, c'est consternant, sujet à polémique, mais ce n'est pas le sujet de ce matin, je vous rassure. La tradition du sapin de Noël est très ancienne, et avant qu'il ne soit décoré et devienne le symbole même de la nativité, le petit arbre était déjà fêté par les Celtes il y a plus de 2000 ans, pour saluer le solstice d'hiver qui annonce la renaissance du soleil.
Alors depuis quand est-ce qu'on peut voir le sapin en France ?
Au Moyen-Âge, les populations placent en fin d'année des sapins sur le parvis des églises pour célébrer Adam et Ève et le paradis. Et l'on accroche à ces branches des pommes pour rappeler le péché originel. Cette tradition finit par disparaître et il faudra attendre le XVIe siècle pour voir renaître le sapin de Noël. Il est alors mentionné pour la première fois dans un édit municipal à Célestat, commune d'Alsace, et nous sommes en 1521. Il est encore et toujours décoré de pommes et aussi de confiserie.
Et si on a choisi le sapin, c'est parce que son feuillage est toujours vert, hein, ce qui en fait d'ailleurs un symbole d'immortalité.
Je pense même qu'il est bien plus qu'un symbole, le sapin est immortel, et oui. En 2004, le géologue Leif Kullmann découvre sur une montagne en Suède un sapin, un vrai de vrai, un épicéa, qu'il baptise Vieux Jico en souvenir de son chien mort quelque temps plus tôt. Le sapin n'est pas très grand, 4 mètres, et si son tronc n'est âgé que de quelques siècles, ce qui est déjà énorme, les racines qui donnent naissance à un nouveau tronc quand celui-ci meurt sont bien plus anciennes. Et écoutez bien Eric, là vous allez être épaté. Les appareils modernes et les techniques de datation le confirment. La petite graine qui a donné naissance à cet arbre a germé il y a 9550 ans. Ouais. Vieux Jico est l'arbre le plus vieux du monde, un arbre bien vivant. Et avouez que si 9550 ans, ce n'est pas l'immortalité, avouez que ça lui ressemble.
Vos conseils, Alain Baraton, aux auditrices et auditeurs de France Inter. Madame Marly, exactement. Elle voudrait savoir à quelle période de l'année est-ce qu'elle peut planter un gognolimon.
On l'appelle aussi le statis vivace. C'est une plante vivace qui est assez agréable, qui est très résistante à la sécheresse. Ça, c'est l'avantage. Et j'aime également pour ces petites fleurs qui sont parfois pourpre lavande ou blanche. Eh bien, cette plante se plante comme toutes les plantes vivaces, ou presque, au printemps. Ou même maintenant, c'est tout à fait possible. Donc on ne la plantera pas en été, c'est sûr. Donc c'est maintenant que l'on peut planter le gognolimon.
Laurence a planté du chia, C-H-I-A, vous me direz ce que c'est.
C'est pas un mot joli, j'en conviens.
Oui, chia, mais je n'ai que des feuilles, aucune graine. De plus, j'ai lu qu'on pouvait manger les feuilles du chia. Est-ce que c'est vrai ?
C'est devenu très à la mode. Le chia, c'est une plante de la famille de la sauge, originaire d'Amérique centrale. Et elle est devenue très très à la mode pour des graines qui auraient des vertus, paraît-il, je dis presque miraculeuses. Donc oui, elle est comestible déjà. Et c'est une plante qui commence aujourd'hui à être cultivée en France par des professionnels, par nos amis agriculteurs. Il est donc possible d'en avoir dans le jardin. Et si vous voulez en produire dans votre jardin, on va les semer au printemps.
Que faire pour avoir des graines, demande aussi Laurence. Des graines de chia, on les a comment ?
Eh bien, on les trouve maintenant dans le commerce sans aucune difficulté, parce que justement, la plante est arrivée il y a vraiment peu de temps, mais elle devrait être dans les années qui viennent, je crois, sujet à la mode.
Alors Alice, elle a des voisins indélicats qui sent son accord, l'accord d'Alice. Les voisins ont transformé une fenêtre opaque en une fenêtre normale qui crée donc un vis-à-vis. Alors Alice voudrait savoir comment faire grimper une plante le long de ce mur pour aller occulter cette fenêtre qui n'est plus opaque. Est-ce que vous avez une plante à me conseiller ?
Au-delà de l'envie de ne pas du tout m'impliquer dans ce conflit de voisinage, j'imagine que quand des voisins indélicats, en admettant que ce soit le cas, on crée une fenêtre, il leur suffira tout simplement d'ouvrir la fenêtre pour couper la plante qui apparaît et qui leur fera l'ombre. Donc, c'est pas inutile de perdre du temps.
Pas la peine de mettre des clématites, des trucs qui montent dans la fenêtre.
Forcément.
Il suffira de couper et ce sera fini.
Il suffit surtout de faire respecter la loi. S'ils n'ont pas le droit d'ouvrir une fenêtre, ils vont la refermer.
Exactement. Clément, un pachira en pot.
Pachira
en pot. C'est quoi d'ailleurs un pachira ?
Oh, c'est une plante d'intérieur. C'est une plante originaire d'Amérique centrale. Elle ressemble à un petit baobab. Pour faire très simple, elle a le tronc renflés, de grandes feuilles bien larges. C'est une plante assez agréable.
Alors, ce Pakira en pot mesure aujourd'hui 1,50 m, et depuis plusieurs mois, ses feuilles jaunissent, elles se flétrissent, elles tombent. Cela dit, des nouvelles feuilles poussent hein, quand même. Quelle en peut être la cause, demande
dans
Clément.
Dans l'immense majorité des cas, on en revient toujours à l'excès de sécheresse de l'atmosphère. En appartement, il n'y a pas beaucoup d'humidité. Je ne sais pas si vous vous rappelez, moi, quand j'étais petit, ma maman, elle mettait de l'eau, c'est des petits réservoirs d'eau près des radiateurs pour diffuser
un petit peu d'humidité.
L'humidité est très importante pour quantité d'éléments et pour les plantes en particulier. Donc, problème d'humidité atmosphérique, n'hésitez pas à mettre un petit peu d'eau près d'un radiateur pour que le taux d'humidité augmente un petit peu. Et puis, attention à la source de lumière, c'est une plante qui n'aime pas le soleil direct, surtout le soleil brûlant entre 14 et 15 heures.
Et pourtant, ça vient des pays d'Amérique latine,
et
me
pourtant, disiez-vous. Oui, mais vous avez des plantes qui vivent également à l'abri des autres plantes bien plus grandes qu'elles. Voilà la petite subtilité. Donc, c'est une plante qui a besoin de soleil, mais pas toujours direct, d'humidité, de période de sécheresse. Donc, c'est une plante un peu complexe à entretenir. Mais vous savez, une plante, c'est comme une voiture. Pour bien la piloter, il faut d'abord lire le mode d'emploi. Et les plantes, parfois, sont complexes.
Et bon conseil d'Alain Baraton. On va terminer avec Daniel, qui a cueilli dans son jardin des cèpes, plus ou moins en grande quantité, selon les années. La question est la suivante. J'ai constaté que certains cèpes poussaient le long des racines d'un bouleau. Et Daniel s'inquiète et se demande si l'apparition de cèpes au pied de l'arbre est un mauvais présage pour ce bouleau.
Les champignons lignivores, ceux qui mangent le bois en décomposition, se mettent sur le bois. Le cèpe, lui, pousse à côté de l'arbre. Il a besoin de l'arbre, il vit en osmose. Mais quand vous êtes en Dordogne et que vous avez décelé la présence merveilleuse de cèpes, ou voire même de truffes au pied des arbres, il n'y a aucune conséquence pour les arbres, donc il n'y a pas de souci.
L'arbre est plus fort que le champignon ouais. qui pousse à ses pieds.
Et puis quand on a l'immense bonheur d'avoir chez soi dans sa propriété des cèpes, on ne touche à rien. Mmh. On récolte par contre.
Allez, un dernier conseil pour ce week-end.
Et ben, un joli livre, on a encore le temps de faire des cadeaux. 80 plantes aux vertus magiques. C'est publié donc aux éditions Larousse. Les auteurs Michel Viard, Océane Lessouk et Pauline Quintenas de la Rue ont fait un ouvrage extraordinaire où l'on parle de toutes ces plantes qui auraient des vertus miraculeuses. Les plantes de sorcières, on parle du bois de bouleau, on parle du laurier noble, on parle de quantité de végétaux. C'est joliment écrit, c'est joliment dessiné.
Redis-nous le titre.
80 plantes aux vertus magiques, c'est publié chez Larousse, 24,90 €.
Alain Baraton, le jardinier de Versailles, merci et à demain.
À demain.